Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, parle-nous donc de ces révélations de BuzzFeed ou BuzzFed à propos de Donald Trump et de Michael Cohen, là.
Oui, BuzzFeed, c'est quand même une source d'information qui est respectée aux États-Unis. C'est pas n'importe quoi. Eux citent deux sources fédérales anonymes qui leur auraient révélé que Donald Trump en personne aurait demandé à son ancien avocat Michael Cohen de mentir devant des comités d'enquête du Congrès. C'est très grave. Si jamais c'est le cas, ça signifie que Donald Trump est coupable d'entrave à la justice.
Oui, oui. Alors, mais encore faut-il évidemment le prouver. Parce que ça risque d'être évidemment la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Absolument.
Est-ce que Cohen a des courriels, des textos, des preuves de ce qu'il avance?
C'est ça. Parce que évidemment Cohen, tu parles de Mueller, parce que Cohen évidemment c'est quelqu'un qui a été accusé de parjure et est reconnu coupable de parjure. Donc sa parole vaut pas grand chose. Mais il semble bien que Mueller aurait fait des entrevues avec des membres de l'organisation Trump. Il aurait différents documents internes, entre autres des courriels, qui lui montreraient qu'en effet, Trump a demandé à Cohen de mentir. Et ça devient donc très très grave. En fait, toute l'histoire concerne la construction d'une tour Trump à Moscou. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, on en a parlé, c'était dans les médias. Sauf que Trump avait dit « Oui, c'est vrai, on en a discuté. » Mais vous savez, toutes ces discussions ont pris fin en janvier 2016. Ça ne serait pas vrai. En fait, ça aurait continué longtemps après, pendant la campagne présidentielle de Trump, et même que Cohen aurait servi de négociateur en chef, si tu veux, et qu'il aurait tenu au courant non seulement Donald Trump des négociations, de l'état des négociations, mais aussi Ivanka Trump et Donald Trump Jr. Donc, c'est assez gros, cette affaire-là, et ça pourrait faire tomber Donald Trump, si jamais c'était vrai. En tout cas, ça pourrait très certainement initier une procédure en destitution par la Chambre des Républicains, mais on sait bien que la Chambre des Républicains peut le faire parce que les démocrates...
Des représentants,
quel drôle de lapsus, hein?
Oui. C'est maintenant la Chambre des démocrates, d'ailleurs, parce qu'ils ont gagné la majorité
oui, c'est ça,
lors de la dernière élection. Mais le Sénat, lui, est encore...
qu'on pourrait parler du Sénat des Républicains, puisque les Républicains, ils sont majoritaires. Et c'est là où, évidemment, le bas blesse. Pour le moment, les Républicains semblent toujours tenir derrière, être unis derrière Trump.
Oui, voilà, exactement. Pour continuer avec Trump, l'escorte qui affirme avoir des secrets sur lui a été arrêtée par les Russes?
Anastasia Vatchukevitch, c'est un très beau nom pour un film de moyenne catégorie. Tu sais, on verra ça dans un film, on n'y croirait pas. Hein. Alors, cette femme, je te rappelle, avait été arrêtée en Thaïlande avec 9 autres étrangers parce qu'elle y organisait des soi-disant cours de formation sexuelle.
Oui.
Finalement, elle a été jugée, elle a été condamnée à une amende, et puis elle a dit « Bon, ben, je retourne chez moi en Biélorussie ». Le problème, c'est qu'elle a été mise sur un avion qui faisait escale à Moscou pour se rendre en Biélorussie. Et devine ce qui est arrivé à l'aéroport de Moscou, elle a été arrêtée par les autorités russes. Or, cette femme a déclaré qu'elle détenait des informations cruciales qui montraient le rôle de la Russie dans la campagne présidentielle de Trump. Parce que elle était une des maîtresses, semble-t-il, d'Oleg Deripaska, qui est un richissime russe qui a fait fortune dans l'aluminium. Il y a eu des affaires politiques autour de tout ça. Mais surtout, ce monsieur Deripaska est quelqu'un qui était très proche de Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. Alors, tu vois, comme ce monde est un petit monde, et donc...
La question,
on
est de savoir,
s'étonne un peu.
La question est de savoir si les Russes l'ont arrêté pour, mettons, sous l'ordre de Poutine ou de sa garde, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce que c'est pour la faire chanter puis utiliser l'information éventuellement contre Trump?
C'est possible aussi.
Ben oui.
Est-ce que, et puis on peut aussi dire qu'en fait, elle n'a pas vraiment d'informations, elle a dit ça pour essayer de recevoir la protection des Américains.
Peut-être.
Il est possible aussi qu'elle ait été arrêtée dans cette à faire, parce que Monsieur Dirapaska, donc ce richissime russe, a été arrêté, a été compromis, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a arrêté. Mais c'est peut-être, et malheureusement on est obligé de le dire, la troisième hypothèse aussi, c'est peut-être parce que justement les Russes veulent protéger Donald Trump pour empêcher les informations de sortir.
C'est possible, tout est possible dans cette histoire-là.
Oui, oui. On est rendu là.
Parlons un peu du Venezuela. On n'en parle pas souvent, mais ce pays-là est en crise depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut garder un œil là-dessus parce que les Américains ont un œil sur le Venezuela.
Oui, les Américains ont dit qu'ils allaient aider le Venezuela, mais attends, c'est parce que au Venezuela, on sait que Maduro a été nommé officiellement président du Venezuela une deuxième fois. Sauf que l'Assemblée nationale dit que ces élections étaient frauduleuses, qu'il n'aurait jamais dû devenir président. Et en fait, la plupart des pays d'Amérique latine pensent la même chose. Les États-Unis aussi. Et l'Assemblée nationale du Venezuela pense la même chose. Tellement que l'Assemblée nationale appelle le pays, appelle les citoyens à la désobéissance civile contre Nicolas Maduro, qui est donc le président du Venezuela, en disant qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Plus que ça, ils sont en train de faire voter une loi qui amnistie tous ceux qui vont désobéir au président Maduro. Et ils vont amnistier les gens rétroactivement, si tu veux, depuis 1999, depuis l'arrivée de Chavez jusqu'à aujourd'hui.
Oui. En tout cas, la raison pour laquelle on parle du Venezuela, là, c'est que l'Amérique latine, historiquement, a été considérée comme la chasse gardée, l'arrière-cour des Américains. Mm-hmm. Et moi, quand je regarde les troubles au Venezuela, je reste toujours, moi, sur mon idée que Trump, pour se faire réélire, pourrait décider à un moment donné de le faire à la faveur d'un conflit militaire. Et quand je le regarde, quand je regarde les États-Unis intervenir dans les affaires du Venezuela, de reprocher à Maduro, avec raison, sa dictature, de dire que l'opposition à Maduro a raison de se mobiliser, de promettre un soutien américain pour que la démocratie soit restaurée au Venezuela, je me dis, soyons pas étonnés si dans un an, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où les Américains sont en train d'envisager une intervention militaire au Venezuela. C'est ce que je dis.
Je pense qu'ils le font très certainement. Et d'ailleurs, les autorités vénézuéliennes l'ont souvent évoqué. Mais je pense que si les États-Unis devaient intervenir quelque part dans le monde, et même, je dirais, et en Amérique latine, ce serait probablement au Venezuela. Parce qu'en plus, la population est très mécontente du gouvernement Maduro.
Il y aurait des appuis.
Les Américains auraient une partie de la population qui les appuierait dans ce cas-là.
Oui, absolument.
Alors, c'est pas impossible du tout, cette hypothèse.
Absolument. En terminant, vite, 20 morts dans un attentat à la voiture piégée à Bogota. On sait que c'est un pays qui est en processus de réconciliation, mais il y a la petite guérilla de l'armée de libération nationale qui a toujours pas d'accord de paix avec le gouvernement. Est-ce que c'est l'ELN, comme on l'appelle là-bas, qui aurait mis ses bombes?
On ne le sait pas, c'est pas du tout confirmé, mais en effet, il y a eu dans la capitale de la Colombie, Bogota, un très grave attentat hier qui a fait 20 morts, des douzaines de blessés graves. Au total, il y a eu 68 blessés, mais tout c'était pas grave, heureusement. Ça s'est passé devant une académie de police à Bogota. Le gouvernement a décrété 3 journées de deuil national. Ça faisait 9 ans qu'il n'y avait pas eu d'attentats à Bogota, de gros attentats terroristes à Bogota. On pense que la raison pour laquelle, on n'est pas sûr du tout, mais pour laquelle il y aurait eu cet attentat, c'est que le président de la Colombie, M. Duque, a adopté une attitude très très ferme avec ce groupe terroriste, l'Armée de Libération Nationale, et donc les négociations piétinent et ils essaient peut-être de les faire débloquer. Pas une très bonne façon, à mon avis.
On s'entend là-dessus. Loïc Tassé, bonne fin de semaine.
Salut, à lundi.
Martin McGuire qui s'amène dans un instant pour parler du match du Canadien de ce soir.